I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Mixte, le podcast de la rédaction des sports de 20 minutes. Aujourd'hui, je suis avec Julien. Salut Julien.
Salut Nico, salut tout le monde.
On va parler cette semaine d'un club qui va bien.
Ouais,
un club en pleine santé.
D'un club où tout roule et où les planètes sont alignées, comme on dit, mais dans le mauvais sens.
Avec une gestion qui fait envie, efficace. On va parler de l'OL.
Oh là là, quel club.
Là, on est au lendemain de ce match en retard qui a été disputé. Une belle petite défaite, 3-0 au Vélodrome.
Contre l'OM, le seul adversaire contre qui l'OL gagnait tous les ans jusqu'à encore récemment. Mais même ça, c'est fini quoi.
C'est fini, ça fait 7 points après 14 journées. Assez exceptionnel. Alors juste d'un point de vue statistique, dans l'histoire, c'est arrivé 7 fois, si on met la victoire à 3 points pour toutes les saisons.
Alors déjà, ce n'est arrivé que 7 fois. Imaginez, sur 80 piges de Ligue 1, il n'y a eu que 7 fois un dernier aussi mauvais que l'OL en termes de points.
Et aucune de ces 7 équipes ne s'est maintenue en fin de saison. Donc voilà, c'est encourageant. Qu'est-ce qu'on en dit de tout ça?
C'est très encourageant, même si, alors c'est vrai que ce qui peut raccrocher un peu un mini maigre espoir, c'est qu'effectivement, le nombre de points est famélique. Mais déjà, c'est une saison avec un barragiste, donc ça veut dire qu'il n'y a que 2 descentes. Le CM peut encore se maintenir à l'issue du barrage avec la Ligue 2. Et que c'est vrai que ça avance pas beaucoup plus vite devant. Hein. J'enlève Clermont, qui va tout droit aussi. On peut avoir Clermont, Lyon et Saint-Etienne en Ligue 2 l'année prochaine. Et il y aura une forme, voilà. Tu vois, c'est toute une région solidaire. Ça.
Laurent Wauquiez parlera certainement plus des JO d'hiver 2030 qui arrivent.
Il va supprimer les subventions. Plus de subventions, voilà. Et c'est vrai que Lorient, c'est le barragiste actuel. C'est pas non plus la marade absolue.
N'est qu'à 5 points.
Par rapport à 7, c'est peu, mais quand t'as marqué que 7 points en 14 journées, pour arriver à 12, il t'en faut bien 10 de plus. Les esprits chagrins diront qu'il faudrait quasiment gagner un match sur deux d'ici la fin de saison pour se maintenir, ce qui paraît une performance absolument hors de portée de cette équipe-là. Donc, clairement, est-ce que Lyon y va tout droit? Là, en l'état actuel des choses, oui.
La question qui se pose quand même quand on voit l'OL cette saison, c'est mais comment on a fait pour en arriver là? Enfin, c'est quand même incroyable. L'OL, même sans parler des années d'or dans les années 2000, mais il y a 3 ans, l'OL, c'est demi-finale de Ligue des Champions. Même sur une saison spéciale, on est d'accord. Mais ça fait que 3 ans.
Ça fait que 3 ans, c'était l'été 2020. Et il a fallu, je dirais, que tout le monde se retrousse les manches pour arriver à sombrer en aussi peu de temps. Et c'est vrai que ça, c'est assez remarquable, ça a souligné. Tout a été réuni parce que le déclassement.
Un déclassement progressif.
Il est progressif, effectivement, sur le déclassement. Cette fameuse année de Ligue des Champions. C'est un peu une année un peu charnière parce que tu joues le titre et au final, tu t'écroules et tu finis que 4e, c'est-à-dire que tu vas pas en Ligue des Champions. Derrière 8e, puis 7e. Voilà, là, ça commence à jouer le ventre mou. De là, imaginez la saison que t'es en train de vivre.
Ouais, c'est ça surtout.
C'est quand même assez dingue. Mais si tu regardes ce qui s'est passé en coulisses, il y a une forme de logique à voir un club faire n'importe quoi, être sanctionné sur le terrain. Jean-Michel Aulas, on peut considérer que déjà les 10 dernières années marquaient une espèce de déclin progressif, gentillet. Voilà. C'est-à-dire que tu jouais plus les premières places, tu jouais encore la Ligue des Champions ou la Coupe d'Europe, mais tu voyais plus que les défauts du modèle. C'est-à-dire que tu avais encore des bons joueurs qui sortaient soit du centre, soit que tu allais chercher notamment au Brésil, et tu les vendais aussitôt. Hein. Rappelons que la fameuse année de demi-finale Ligue des Champions, t'as un milieu de terrain, Paqueta, Guimarães, Oussem Aouar. Je vous laisse comparer avec le milieu de terrain actuel. Et c'est des joueurs, alors j'en ai voir qu'un cas particulier, mais c'est des joueurs que tu as mis dehors volontairement pour renflouer les caisses. Voilà, disons qu'il y avait ce déclin-là, et tout s'est accéléré, je dirais. Là, on est passé sur la descente du Tourmalet une fois que t'as vendu à l'ami Johnny.
Ouais, mais même sur les dernières années, il était un peu plus préoccupé par ça. On a l'impression comment vendre son club. Il y avait une sorte d'exigence en moins quand même, de la part d'Aulas, et que oui, évidemment, après, on en arrive donc à cette fameuse vente. La transition, la manière dont ça s'est fait, c'est catastrophique. Il y a eu beaucoup de jeux, d'écriture de la vente du club, Textor qui arrive, qui a finalement pas toutes les garanties, un premier passage devant la DNCG. Il s'attendait pas à ça.
Effectivement, l'idée s'est quand même vite imposée que Jean-Michel Aulas a vendu un guignol. Et John Textor, en quelques mois de présidence, parce qu'en fait, il est vraiment aux manettes tout seul depuis la fin de saison dernière, parce que Jean-Michel Aulas était quand même encore le président actif l'année dernière. Et c'est vrai qu'il peut déjà être sur le podium des pires dirigeants du foot français, et probablement à la première place s'il arrive à faire descendre l'OL. Mais la somme de mauvais choix depuis l'été dernier est quand même assez conséquent. Donc il y a eu ce passage à la DNCG mal préparé, parce qu'au fond, bon, la DNCG, alors on va dire les pros ou les anti-Aulas plutôt diraient que Jean-Michel Aulas avait la DNCG dans sa poche et puis que de toute façon, quand il arrivait, il avait déjà les ventes sur 3 ans en disant Barcola 7 ans au mois de juin, Loukeba 7 ans. Et c'est vrai que Textor est arrivé lui en disant bah, moi je vends personne. Sauf qu'à la DNCG, on lui avait expliqué que déjà visiblement ses garanties bancaires ne suffisaient pas, qu'il allait falloir vendre. Et je crois un des premiers malentendus, c'est qu'entre son discours. Parce qu'Aulas disait on n'a pas besoin de vendre, mais tout le monde savait bien que c'était juste un jeu de négo. Textor dit on va pas vendre cet été, on va se renforcer, on garde nos meilleurs espoirs. Et boum, tu vends Loukeba, qui était ton seul défenseur qui tenait la route, et tu vends Barcola, qui était ton meilleur attaquant, enfin ton grand espoir devant. Déjà, c'est deux décisions qui ont fait d'une équipe fragile qui, alors, troisième des matchs retour l'an dernier. C'est vrai que c'est une stat sur laquelle on s'est beaucoup appuyé pour dire qu'il fallait que Laurent Blanc continue, que machin, que Aulas avait pas si mal bossé. Mais c'était très fragile. Et tu perdais un match, il y avait 3 points en moins, t'étais d'un coup 10e de la phase retour. Et t'enlèves 2 joueurs très important et tu te rends compte que ben, l'édifice quasiment s'écroule.
Parce que ben, si Lacazette marque autant de buts l'année dernière, c'est parce qu'il a Barcola à côté de lui.
Voilà, hein. Et clairement, tu commences la saison avec un mercato.
Ah, on a repris les noms là, c'est quand même assez hallucinant.
Voilà, c'est assez exceptionnel.
Alors qui on prend cet été, Julien, l'OL?
Alors parce que là, bon, on en parlera peut-être un peu plus tard, l'OL a des sous pour le mercato de janvier. Mais rappelons quand même qu'il en avait un peu quand même, malgré tout, pour le mercato de cet été. Et il a fait absolument n'importe quoi. Alors on enlève Nouama, qui était un énorme coup.
Particulier.
Voilà, qui est un peu jeune avec ses défauts. Bon, c'est un prospect européen. C'était plutôt. On peut parler aussi de comment l'OL l'a acheté.
On rappelle juste de... acheté officiellement par Molenbeek pour le prêter direct à l'OL, voilà, un montage
magouille absolue et horrible du foot d'aujourd'hui. Alors on a Clinton Mata qui est effectivement en arrière-droit d'expérience, bon, qui peut faire la maille avec ses défauts, même si lui aussi il est aspiré vers le bas comme tout le monde. Mais alors arrêtons-nous une minute sur Alvero, le milieu socialien. Et surtout, et je crois que s'il y a bien un joueur qui représente, qui illustre ce qui est devenu l'OL, c'est Paul Akwoku Akwoku, milieu du Bétis. Rappelons quand même la circonstance, Nico, c'est quand même extraordinaire. L'OL se met sur un milieu de terrain de qualité du Bétis. Guido Rodriguez, international argentin, taulier numéro 6, qui est visiblement d'accord pour venir, le Bétis veut bien le lâcher, puis ça fait partie de ces dossiers qui ne se concluent pas pour des raisons qui peuvent t'échapper. Ce mec ne vient pas, ça arrive, et tu finis par recruter le remplaçant de son remplaçant, le dernier jour du mercato, ou presque. Et là, tu te dis, idée de génie.
Ça sent pour cette
sur
histoire.
Les conseils de Jean-Louis Gasset, puisque le mec est visiblement plus ou moins international ivoirien, je sais pas comment, qui dit à Laurent Blanc, je crois que là tu tiens ton numéro 6. Et là tu vois débarquer un mec qui n'a même pas le niveau Ligue 2. Littéralement, ceux qui l'ont vu jouer au Vélodrome peuvent en témoigner, il n'a pas le niveau footballistique requis pour jouer à un niveau supérieur, pour moi, du national. Et ça, finalement, je trouve que c'est l'OL de 2023-2024, c'est l'OL de Textor. Et de là, tu arrives à ce que tu vois aujourd'hui.
Et ensuite, c'est ce qui se passe sur le banc, parce que bon, finalement, on dit allez, Lolo Blanc, on repart avec toi pour finalement le virer. Tu prends un entraîneur derrière qui zéro expérience, Fabio Grosso, pour le laisser que 7 matchs. Enfin,
genre, si tu 7 matchs cataclysmiques.
Oui.
Il faut quand même le dire. C'est-à-dire que, effectivement, tu prends Grosso. Ce qui paraît pas, parce que, alors rappelez-vous qu'aujourd'hui, il y a Gattuso à l'OM, mais à l'époque, l'OM n'avait pas encore changé de coach. Et Gattuso, à un temps, a été favori pendant quelques heures à Lyon et tout le monde s'est pris la tête entre les mains en disant ah, surtout pas Gattuso. Et Grosso, ancien de la maison, est arrivé avec une forme d'attente positive. Tu vois, on se dit, bon, on tente un truc,
un peu plus ronde.
Et puis, bah, il faut bien avouer que c'est encore pire. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est le coach le problème? Au-delà de la crise, on a rarement vu une équipe aussi mauvaise ensemble. Enfin, c'est-à-dire que, je sais pas, sur les 10 dernières saisons de Ligue 1, j'ai pas le souvenir d'un accident industriel pareil entre ce que tu as sur le papier, qui vaut pour moi aujourd'hui ce que tu as sur le papier, entre la 5e et la 10e place en fonction de si ça se goupille bien ou pas. Pas mieux, mais pas pire.
La saison, elle est vraiment pourrie, genre à Lens. Parce qu'à Lens, tu fais un bon match avec Pierre Sage.
Hein. Voilà,
honnêtement, tu fais un vrai bon match et tu t'en sors avec une défaite, tu sais pas trop comment. Quand ça tourne comme ça, ce genre de match, tu te dis non, mais c'est pas possible.
Mais sauf que déjà, si tu faisais que des matchs comme à Lens, tu pourrais peut-être dire que c'est possible. Mais le problème, c'est que derrière, tu vas jouer à Marseille, qui n'est pas non plus flamboyant cette saison, et tu n'existes pas. Et encore une fois, il y a des individualités qui ne devraient pas être sur ce terrain-là. Et tout le monde est très en dessous de ce qu'il est capable de faire. Cherki est abominable. Yolo disant rigolant, il a la moitié d'un cerveau de Ben Arfa, je commence à le croire. Lacazette, il est dépressif. Lovren, il a avant
en
il
fait,
avait
les Chalets, sont plus là, Tolisso.
Lopez, il plonge de partout, il fait plus un arrêt. En fait, tout le monde joue à 50% de son potentiel à peine. On voit mal ce qui pourrait bien se passer, alors même que, et c'est peut-être la seule chose positive, c'est que Textor, après avoir longtemps fait n'importe quoi, commence à structurer le club de façon...
Je te laisse nous dire un mot sur la direction sportive et la cellule de recrutement. C'est une sorte de translation depuis Marseille vers l'OL.
Parce qu'on a beaucoup reproché à Textor de gouverner seul depuis qu'il a lourdé Jean-Michel Aulas, dont tout le monde voulait le départ aussi. Rappelons que Jean-Michel Aulas, il y avait quand même une espèce d'atmosphère de fin de règne qui durait. Il était temps, pour ne pas gâcher un héritage qui était quand même, quoi qu'on en dise, conséquent, de partir. Et je pense même qu'il est parti trop tard et pas avec l'image qui était la sienne il y a encore 5-6 ans. Et là, enfin, voilà, on sent un président qui gère 4 clubs en même temps, rappelons-le. Hein. Enfin, pas Crystal Palace, qui n'est que minoritaire, mais il gère Botafogo, qui vient de perdre le titre après avoir longuement été en tête du championnat brésilien. Il gère Molenbeek en Belgique. Et là, bon, voilà, il décide de structurer le club, c'est-à-dire qu'il va chercher un directeur général, ancien de l'équipe. C'est ça, hein, Laurent Prudhomme. Mmh. Il va chercher David Friot à l'OM avec tous les recruteurs pour avoir un directeur sportif. David Friot passé par Saint-Etienne. Mathieu Louis-Jean, le coordinateur du recrutement, qui était lui aussi à l'OM.
Et trois scouts aussi.
Et trois scouts compétents. Enfin, on sent qu'il y a une forme de volonté de structurer un club qui fonctionnait encore sous les relâches comme un club à la papa, comme un club dominant, un bourgeois un peu repu, qui vit un peu sur ses rentes. Il a plus d'argent, donc il bosse moins que les autres. Il n'avait pas assez eu de recrutement. On reprochait beaucoup à Aulas, qui considérait que de toute façon, les datas, tout ça, c'était des conneries. Aujourd'hui, ça, c'est en train de changer. Visiblement, il négocie aussi une espèce de retour de Juninho dans un rôle de Pirillo. Bon, à voir, mais qui ferait plaisir aux supporters, puisque bon, Juni et Ola, ça s'est pas très bien fini la dernière fois. Mais on a quand même l'impression que cette structuration, si elle est positive ou qu'elle peut donner des résultats, bah, elle arrive trop tard et qu'elle pourrait pas survivre à une descente en Ligue 2, où, on le rappelle, au-delà de la descente sportive en elle-même, c'est surtout un énorme coup de bambou économique, c'est-à-dire que l'OL, c'est un club dimensionné pour la Ligue des Champions. C'est même pas un club dimensionné pour la 8e place de Ligue 1. Donc imaginez en Ligue 2, il faut quasiment virer la moitié des salariés. Au-delà des joueurs, de l'équipe, avec quoi tu repars? C'est-à-dire que même le club dans son organisation aurait beaucoup de mal à survivre à une descente en Ligue 2. Il faut dire les choses qu'elles sont. C'est un accident industriel qui a peu d'équivalent en Europe au XXIe siècle en termes de moyens versus ce que tu produis sur le terrain.
Ouais, ouais, bah c'est le dernier espoir. C'est cette nouvelle structure avec, a priori, 50 millions pour recruter cet hiver. À Lyon, on se dit, ça peut encore le faire. Le problème, c'est que si, au moment du mercato, tu as 10 points, est-ce que ça servira
voilà,
à quelque chose?
Il y a ça, il y a l'idée encore que tu peux aller chercher un coach parce que Pierre Sage, tout le monde dit, il a des idées, il a ça, mais enfin, tu survivras pas à deux défaites d'affilée comme ça. Et surtout, il faut gagner des matchs, à un moment, faire des points, tu peux pas juste dire. Et puis, c'est un signal que t'envoies au vestiaire parce que le vestiaire a lourdé gros sauts quand même parce qu'ils disent, on n'en veut plus. Derrière, tu mets Pierre Sage, ils sont bien contents, mais ils gagnent pas un match quand même. Donc voilà, il y a l'espoir d'aller chercher un coach, le coach qui te fera enfin pas décoller, mais celui qui va te sauver. Et il y a ces 50 millions qui, normalement, ce sont des moyens, par exemple, qui sont sans commune mesure avec les clubs qui vont jouer le maintien en même temps que l'OL. Maintenant, comment tu les emploies, ces 50 millions d'euros? Parce qu'on parle déjà de deux joueurs de Botafogo, un gardien, un défenseur central. Alors, moi, je les connais assez peu. Ils vont arriver après avoir paumé le championnat brésilien. Ils n'ont plus gagné depuis 3 mois.
Et puis les Brésiliens qui arrivent en janvier, il faut arrêter. Enfin, faut prendre des mecs qui peuvent être efficaces tout de suite. Quoi.
Et qui va arriver? Qui accepte aujourd'hui d'arriver dans un bourbier pareil? On va dire de joueurs de haut niveau. Hein. Tu peux recruter des mecs. On l'a bien vu l'été dernier, il y a toujours des mecs pour venir. Mais pour recruter des joueurs à valeur ajoutée qui vont te permettre de te sauver et de sauver le club. Parce qu'encore une fois, tu sens que si tu te sauves cette année, tu vas peut-être pouvoir repartir sur un autre cycle derrière, reconstruire quelque chose. Mais avant ça, encore
et
une fois...
Et ceux qui disent, on peut reconstruire, on descend Ligue 2, on remet tout à zéro et on remonte. Mais non, Bordeaux, on voit bien que Bordeaux,
Saint-Etienne,
c'est la catastrophe.
Saint-Etienne, ça va être compliqué. Je veux dire, la Ligue 2, remonter tout de suite. Soit vous remontez la première année, mais même Lyon, ça, je veux dire, au-delà du fait que c'est très difficile de remonter la première année, les moyens économiques...
Les clubs qui remontent tout de suite, c'est ceux qui sont calibrés Ligue 2, c'est Metz, ce genre de clubs qui ont l'habitude.
Honnêtement, aujourd'hui, je dirais pas que c'est le dépôt de bilan s'ils descendent, mais encore une fois, je trouve que le football est juste sur Lyon parce que quelque part, t'es sanctionné d'une gestion abracadabrantesque. Mais pour ceux qui se réjouissent à la fois en disant tant mieux, ça leur fera les pieds, ou les supporters lyonnais qui se disent on va repartir de plus bas, ça nous fera pas de mal. Après tout, l'ère Aulas se bâtit sur la Ligue 2. Hein. Aulas, quand il reprend le club, il part de Ligue 2. Je trouve que sur le foot de 2023, pour moi, ça marche plus comme ça et que si tu descends, déjà, t'es pas prêt de remonter et peut-être qu'effectivement le club va péricliter et que tu pars sur 10-15 ans de Ligue 2. Il faut aussi l'envisager comme ça. Tu peux pas juste voir le club couler en disant c'est la vie, c'est comme ça. Non, sur un club de cette dimension-là, même pour le foot français en lui-même, ce serait quand même une vraie mauvaise nouvelle, je pense. Après, aujourd'hui, à un moment donné, il se passe ce qui se passe. Encore une fois, la lanterne rouge, elle est méritée. C'est la pire équipe de ce championnat, de très très loin. Il n'y a rien dans cette équipe. Clairement, c'est mieux. Encore une fois, tout ce qui se passe est mérité, donc c'est pour ça, aller chercher le maintien, il faut gagner des matchs sur le terrain, t'en as gagné un depuis le début de la saison, un miracle à Rennes, parce que tu te retrouves en seconde 10 au bout de 5 minutes, et encore t'as failli pas le gagner. Mais voilà, on parle d'une équipe qui a gagné un match sur 14. Pour se maintenir, il faut probablement gagner 10.
Ce sera un des feuilletons de la deuxième partie de saison. Ce serait catastrophique pour la Ligue 1 de perdre l'OL.
C'est vrai, disons-le, parce que quand tu perds Lyon, Bordeaux, Saint-Etienne...
Non, mais je veux dire, on parlait de droit télé, du milliard, du fameux milliard qu'on va aller chercher et tout.
C'est des clubs qui drainent un soutien populaire, quoi qu'on en dise. On peut ne pas être pour l'OL, pour Bordeaux, pour Saint-Etienne, mais c'est des clubs qui font l'histoire du foot français.
Un club connu à l'étranger, si tu veux vendre tes droits à l'étranger.
Et sincèrement, c'est une mauvaise nouvelle pour la Ligue 1. Encore une fois, une Ligue 1, elle est plus forte et elle est meilleure avec Bordeaux, Saint-Etienne et Lyon, pour citer ces trois clubs-là, qu'avec, et c'est pas leur faire injure, Clermont, Reims et Le Havre. Et encore une fois, par exemple, avec un club qui bosse très très bien. Clermont a très bien bossé, même si c'est dur cette année. Reims bosse extrêmement bien. Enfin voilà, mais à un moment donné, je veux dire, ces clubs-là, t'en as besoin pour faire briller le foot français. Bordeaux, Saint-Etienne, c'était dur à digérer, je pense. Mais alors, Lyon, là, c'est extraordinaire. C'était inenvisageable. Je pense que personne n'aurait pu parier là-dessus il y a encore un an, même quand on rigolait avec Laurent Blanc et le golf pendant les trêves, quoi.
Merci Julien pour ce joli tableau.
Non, bon, après, tu peux gagner un match d'ici là. Encore une fois, tant que ça décroche pas, l'avantage, ouais, c'est que tu pourrais aujourd'hui, dans une Ligue 1 normale, être à 10 points déjà. Auquel cas, ce serait mort.
Bah ouais, Strasbourg, enterré. Toulouse, Montpellier, ça voilà. N'avance
aujourd'hui,
pas.
Aujourd'hui, encore plus, un peu de place, faut... mais attention, si tu gagnes pas un match d'ici la trêve, il suffit que tu perds contre Toulouse déjà. Bah, d'un coup, Toulouse est 10 points devant, ce qui est une différence abyssale quand tu joues comme l'OL aujourd'hui. On dit feuilleton, oui et non, hein, ça peut être fini très rapidement, dans le sens où tu peux être quasiment en Ligue 2 au mois de mars. On assiste à un naufrage en silence, fait un peu de peine quand même. Voilà. Qu'on soit lyonnais ou pas, je trouve que ça fait un peu de peine.
Ouais. Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Vous pouvez nous suivre aussi sur Twitch tous les jeudis après-midi. On a des invités JO et des débats sur l'actu du sport.
Tout à fait. Merci Nico, merci à vous. Et on se retrouve le plus vite possible.
Eh oui, à bientôt. Salut tout le monde.
Ciao tout le monde.
Save big money when you start your next project today at Menards. Check out our great selection of garage and utility lighting options. In stock, ready to take home today. We carry everything to help you illuminate whatever project you're working on. Shop garage and utility lighting products in store at your nearest Menards. You can also view all of our entire selection of lighting options today on Menards.com. Save big money at Menards.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.